Vous écoutez Radio Ndekiluka sur les www.radiondekiluka.org. Les 4 top nous signalent qu'il est 13h, suivant la grande édition avec Reine Fabienne Doutiga. Reine, bonjour.
Bonjour Nina Verdania Baudet, bienvenue à tous dans cette édition de la mi-journée. À la une, c'est terminé les élections législatives pour la 7e législature en Centrafrique. La Cour constitutionnelle a validé hier l'élection des députés des 7 dernières circonscriptions. Après des policiers la semaine dernière, des gendarmes plus de 650 portent leur insigne et entrent en fonction aujourd'hui. Et puis la deuxième dose du vaccin AstraZeneca est disponible. Le ministère de la Santé appelle les Centrafricains qui ont déjà reçu leur première dose à se faire vacciner. Football éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, la rencontre RCA Cap-Vert, c'est demain au Cameroun.
C'est fini, Reine, avec les élections législatives pour la 7e législature en République centrafricaine.
Oui, Verdiane, l'Assemblée nationale a désormais le nombre complet de députés. Ils sont maintenant 140. La Cour constitutionnelle a validé hier l'élection des 7 autres élus restants après les élections législatives résiduelles du 14 mars dernier. Ce processus électoral qui vient de s'achever avait commencé le 27 décembre 2020 avec la réélection de Faustin Archange Touadéra comme président de la République.
Après des policiers, la semaine dernière, des élèves gendarmes aussi portent leurs insignes et entrent en fonction aujourd'hui.
Oui, c'est la 29e promotion. Après plus de 9 mois de formation, 651 gendarmes sont présentés sous le drapeau en présence des autorités du pays. Les festivités se déroulent à l'École nationale de la gendarmerie de Kolongwa à Bangui. Le reportage, c'est à suivre dans nos éditions de 18h et 20h.
Parlons des forces de l'ordre Rennes. Les habitants des quartiers Soué et son logement de la commune de Bégoua, au PK 15, Axe Boili, déplore des abus d'autorité de la part des militaires basés dans leur secteur.
Selon eux, Verdian, ces militaires traitent et jugent des problèmes familiaux et font passer à tabac des gens à leur base. Faustin Modesté Zingagba a été sur place pour recueillir des témoignages.
C'est presque tout le monde qui se plaint. Hommes, femmes, jeunes et vieillards des quartiers Sceaux et sans logement désapprouvent la conduite des militaires qui sont censés les protéger. Cette femme qui habite sans logement regrette le châtiment rigoureux infligé à son frère.
Le frère avec qui je vis a été accusé d'avoir volé un plat et quelques ustensiles de cuisine, chose que je n'ai jamais remarquée chez lui. Alors une sœur du quartier l'a amené chez ses militaires. Ceux-ci l'ont tabassé sévèrement. En tout cas, mon frère ne se reconnaît pas dans cette accusation, mais ainsi va la vie.
Nous rencontrons un autre jeune du quartier Sceaux.
Il y a des cas de braquage, des vols. Et ils sont là pour maintenir la situation. Mais depuis qu'ils sont passés ici, ils créent des problèmes. Ils cherchent les femmes des autres. Si je me souviens bien, après 2 semaines, il y a une mésentente entre eux avec les jeunes de l'autre côté de la rivière. À cause d'une bagarre, et ils ont menacé les jeunes avec les armes. Mais les armes, ce n'est pas pour menacer les gens et faire de n'importe quoi avec leur comportement. Ne va pas.
Pour ce jeune, c'est à tort de considérer les habitants de son logement et Sceaux comme des rebelles.
L'ex-président François Bozizé était ici à son logement. Après son départ, il pense que nous, les jeunes de la localité, nous sommes tous des rebelles. Alors, ce n'est pas ça. Nous sommes des débrouillards et nous sommes des élèves aussi. Mais dès leur arrivée, il pense que nous sommes des complices.
Le commandant en chef du centre opérationnel de l'état-major des forces armées centrafricaines rencontré se réserve de se prononcer avant d'examiner cette affaire. Selon lui, les militaires installés sur chaque checkpoint ont pour rôle de protéger la population au lieu de la maltraiter. Il ajoute aussi que ce manque de cohabitation entre militaires et population peut créer une perte de confiance.
Parallèlement, la vie reprend derrière la colline de Bazoubangui. Les habitants de Voudambala, Yassaré et Yassinda ont regagné leur domicile.
Ces 3 quartiers du 4e arrondissement font partie de l'itinéraire des rebelles de la CPC quand ils menaient une attaque sur Bangui. Ces événements et les ratissages des forces armées centrafricaines qui ont suivi ont poussé certains habitants à trouver refuge dans la brousse et certains sur des sites de déplacés. Melino Banjo et Rolf Steve Dumialeux ont visité ces secteurs. Reportage.
Ici, c'est Voudambala, un quartier en hauteur. Pour avoir une vision panoramique, notre guide nous place sur une termitière. Le paysage est magnifique. À cette hauteur, on peut voir des champs, des cases et même des habitants qui font des va-et-vient. Cet endroit était invivable il y a 3 mois. De la vie de Jean Yakota, les ratissages ont permis de chasser les bandits.
Ça fait 3 mois que j'ai regagné ma maison. Je suis en paix. À distance, les gens ont peur. Ils disent qu'il y a des bandits derrière la colline. Mais depuis que nous sommes revenus, on ne voit aucun bandit.
3 kilomètres séparent vous d'Ambala de Yacinda. Au fur et à mesure que Franqué fonce avec sa moto au cœur de cette colline, il secoue la tête. Selon lui, la quiétude est revenue dans cet endroit hostile grâce au travail des autodéfenses.
Il n'y a plus de braquage. Les jeunes se sont constitués en groupe d'autodéfense. Ils effectuent des patrouilles pour protéger le quartier Yacinda.
Les patrouilles des forces armées centrafricaines rassurent les habitants de ces 3 localités, selon Gilbert, habitant de Yacinda.
Des FACAS sont basés à Voudambala. Ils assurent notre sécurité. De temps en temps, ils font des patrouilles jusqu'à des heures tardives. Nous sommes en sécurité.
Les habitants de Voudambala, Yassara et Yacinda demandent l'installation d'une base permanente des forces de défense derrière la colline. Ce secteur fait partie de l'itinéraire des rebelles de la CPC quand ils menaient une attaque sur Bangui le 13 janvier dernier.
13h06 à Rennes, le journal se poursuit. Direction à présent la ville de Brière dans la Haute-Côte. L'hospitalité et la solidarité qui caractérisaient la population tendent à disparaître.
L'individualisme prime sur l'esprit communautaire. Mais pourquoi ce changement? Que faire pour rétablir ces valeurs? Gasmala Mustafa, notre correspondant à Bria, s'est intéressé à ce changement dans la société.
L'accueil et la solidarité longtemps défendus et pratiqués par les anciens cessent davantage de place à l'égoïsme et l'avarice dans la plupart des villages de la Haute-Côte. Mahmat Nour de Balmer, âgé d'une 60aine, déplore la disparition progressive de ces valeurs aujourd'hui dans les villages et même dans les familles.
Lorsque je quitte l'école pour revenir dans mon village natal, en vacances, on me reçoit à bras ouverts. On m'égorge de poulet. S'il n'y a pas de poulet, on envoie des enfants aller chasser ou bien aller pêcher pour m'amener de gibier ou bien de poisson frais pour passer mes séjours avec. L'accueil était vraiment très chaleureux parce que nos parents avaient vraiment l'amour de nous voir parmi eux.
Pour certaines personnes, c'est la modernité, particulièrement le suivisme aveugle, qui est à la cause principale de cette disparition de valeurs sociales africaines. Jacques Mbalé regrette aussi la perte du devoir de solidarité africaine.
Dans le village, quand il trouve un repas, il fait l'appel. On partage ça ensemble. Les gens de la ville commençaient à initier les gens du province. Paraît-il que chez les Blancs, quand tu viens, tu n'as pas une billet d'invitation, on ne peut pas t'accueillir. Bon, les idées commencent à faire des conflits. Bon, maintenant, ça ne marche pas.
Pour rétablir ces valeurs traditionnelles qui renforçaient les liens familiaux, Jacques Mbalé encourage les parents à enseigner ces normes sociales à leurs enfants.
Nous devons sensibiliser les gens, dire que nous sommes des Africains. Si ton camarade arrive, même si tu as fait la cérémonie, il faut le recevoir. S'il n'est pas invité, il faut le recevoir.
La perte d'hospitalité et de solidarité fragilise non seulement les relations humaines, mais crée aussi des conflits communautaires dans le pays. Bria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
Santé dans ce journal. La République centrafricaine, à l'instar des autres pays du monde, célèbre aujourd'hui la 19e journée africaine de la médecine traditionnelle.
Elle est célébrée sur le thème « La contribution potentielle de la médecine traditionnelle à la réponse au Covid-19 en Afrique ». Aucune manifestation n'a été organisée à cette occasion. Écoutons à ce propos Dr Pierre Somsé, ministre de la Santé, qui parle des avancées mais aussi des défis à relever au micro de Francis Clavercal.
La RCA a enregistré des progrès substantiels dans la promotion et le développement de la médecine traditionnelle dans l'espace de 2 décennies. Néanmoins, en dépit de ces avancées significatives, notre système de santé comporte encore de nombreuses lacunes à combler, notamment l'absence d'un cadre permettant l'introduction de la médecine traditionnelle dans le système de soins et l'insuffisance de collaboration entre les différents acteurs de la médecine traditionnelle. Par conséquent, mon département s'engage à renforcer l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé dans le cadre de l'accélération de la couverture universelle en vue de l'atteinte de l'objectif du développement durable numéro 3, santé et bien-être. Dans le contexte de la pandémie à COVID-19, la médecine traditionnelle est de plus en plus sollicitée. Au niveau les plus élevés, la pandémie pandémie a permis de mieux prendre conscience de la valeur de la médecine traditionnelle. Les tradis praticiens peuvent jouer un rôle de premier plan en renforçant l'adhésion des populations aux mesures de prévention de la COVID-19 et en orientant les patients vers des soins de qualité en temps opportun.
Et puis COVID-19 en Centrafrique, Rennes, le ministère de la Santé appelle les Centrafricains qui ont déjà reçu la première dose du vaccin AstraZeneca à aller recevoir la deuxième dose.
Oui, Verdian, c'est ce qu'a indiqué Dr Patrice Feilema Moïrissé, chargé de communication de la cellule COVID-19 au département de la Santé. Selon les responsables sanitaires, il est important de recevoir les deux doses du vaccin AstraZeneca pour être vraiment immunisé. Dr Patrice Feilema Moïrissé.
Les vaccins AstraZeneca sont déjà disponibles dans tous les sites de vaccination à Bangui et les gens qui ont reçu leur première dose peuvent maintenant se rendre dans les sites de vaccination pour recevoir leur deuxième dose. C'est très important. Et pour que vous soyez protégés, vous devez recevoir les deux doses. Parce que les deux doses permettent à ce que votre corps fabrique plus d'anticorps et ça vous permet d'éviter la maladie. Tous les sites où on avait disposé les vaccins lors de la première phase, que vous allez au CNHB, que vous allez à l'Institut Pasteur, que vous allez au centre santé de la Kwanga, au centre santé qui est en face de l'Assemblée nationale, vers Bédé Combattant, vers Castor. Les gens peuvent se rendre là-bas pour se faire vacciner pour la deuxième dose. La vaccination n'exclut pas le respect des mesures barrières. Comme vous savez, nous avons plusieurs variants. On ne maîtrise pas ce virus, donc c'est important que même si vous êtes vacciné, même si vous avez reçu vos deux doses, c'est vraiment important de continuer à respecter les mesures barrières.
Parlant toujours du COVID-19, l'Organisation mondiale de la santé juge fiable une projection qui prévoit 236 000 morts supplémentaires liées au COVID-19 d'ici le 1er décembre en Europe.
C'est ce qu'a affirmé hier le directeur régional de l'OMS Europe. Il s'inquiète également de la récente stagnation du rythme de vaccination sur le continent. Dans le monde, plus de 217 millions de personnes sont infectées par le coronavirus et la maladie a tué plus de 4 500 000 autres.
Actualité hors de nos frontières, les États-Unis quittent l'Afghanistan après 20 ans.
L'ambassadeur américain à Kaboul et en général sont les derniers Américains à quitter l'Afghanistan hier lundi. Ils laissent le pays aux mains des talibans au terme de la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Après cette annonce, des coups de feu ont retenti de différents postes de contrôle des talibans.
Pendant ce temps, au Royaume-Uni, des associations s'organisent pour venir en aide aux réfugiés afghans.
Depuis la prise de Kaboul par les talibans le 15 août 2021, près de 500 personnes se rendent chaque jour dans les locaux de l'association de l'Afghanistan et de l'Asie centrale à l'ouest de Londres. Ceci pour récupérer des dons ou tenter de faire évacuer leurs proches. Près de 9000 Afghans seraient en danger et qui auraient souhaité être rapatriés par le Royaume-Uni sont toujours bloqués dans leur pays. Les opérations ont permis d'évacuer en tout 15 000 personnes, des Britanniques comme des Afghans.
La page sport de ce journal, football éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, jour J-1 pour la rencontre RCA Cap-Vert.
Les Fauves poursuivent les entraînements à Douala au Cameroun. Ils joueront deux matchs. Le premier sera demain face au Cap-Vert et le second sera face au Libéria. Les Centrafricains de Douala et du Cameroun tout entier sont appelés à soutenir les Fauves pour obtenir la victoire. L'arbitre assistant centrafricain Jospin Malonga est désigné pour le match qui va opposer l'Angola à la Libye. Il sera avec les arbitres congolais de Brazzaville.
Afrobasket 2021, les huitièmes de finale se terminent aujourd'hui au stade de Kigali Arena.
Cet après-midi à 14h, duel entre le Nigeria et l'Ouganda, suivi à 17h du match au Soudan du Sud-Kenya. Hier, l'Angola s'est qualifié en quart de finale en battant l'Égypte 70-62.
Rennes, parlons maintenant de cette compétition de sambo. La Fédération centrafricaine est invitée aux championnats nationaux qui se dérouleront à Kinshasa en RDC.
Une initiative de la Fédération nationale congolaise de sambo. Le tournoi est prévu du 6 au 10 octobre prochain dans la capitale congolaise. La République centrafricaine avec ses combattants sera de la partie pour se préparer en même temps au championnat du monde qui aura lieu en novembre à Tashkent, en Ouzbékistan. Cyril Kevin Bolili Inyawa, président de la Fédération de Sambo, au micro de Bienvenue Bello.
En prélude au championnat du monde qui est prévu du 12 au 14 novembre à Tashkent, capitale de l'Ouzbékistan, nous avons donc pensé non seulement vulgariser le sambo, mais aussi préparer nos athlètes à ce grand rendez-vous. Et à cet effet, il y a mon collègue, la République démocratique du Congo, qui nous a donc conviés. Nos athlètes vont s'affronter pour essayer de bien préparer ce rendez-vous-là. Les athlètes, ils doivent repartir dans les clubs. Ma politique, c'est de d'abord renforcer les clubs. Ils doivent se préparer d'abord dans les clubs. Et après, le directeur technique national va essayer de voir comment il va les regrouper dans un cadre de mise au vert pour permettre à ce qu'ils soient vraiment prêts pour le championnat du monde.
Et voilà, fin de ce journal en français sur Radio Ndeke Luka. Merci de votre fidélité d'écoute. La version en langue nationale, c'est tout de suite.